Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Nous allons prier un moment pour la parole de Dieu et nous allons la partager. Père, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Et je crois que ta parole, Seigneur, perce nos cœurs. Qu'elle illumine nos intelligences, Seigneur. Merci parce que tu nous encourages. Tu nous montres les principes divins, Seigneur. Nous voulons comprendre, Seigneur, ce pourquoi tu nous as donné le nom merveilleux de Jésus. Nous voulons comprendre, Seigneur, combien tu es grand et tu es puissant. Combien tu nous as favorisés en Christ. Et combien, Père Céleste, nous avons un accès auprès de toi et que nous avons une autorité ici sur cette terre que tu nous as donnée, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de 5 choses que vous devez savoir sur le nom de Jésus.
Dis
après moi 5 choses que
je dois savoir
sur le nom de Jésus.
Sur le nom de Jésus.
Amen, c'est important,
Kirundi.
Parce que c'est important que vous ayez de l'équilibre et de la compréhension concernant le nom de Jésus. Regardons ensemble un texte que nous connaissons très bien, c'est Philippiens chapitre 2, verset, donc, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, mais c'est surtout le verset 8 à 11 qui va nous intéresser. Parce que c'est important de comprendre ce pourquoi Dieu nous a donné le nom de Jésus et à quoi il doit nous servir. Parce que nous allons voir qu'en premier lieu, ça va être un privilège que nous avons. Et que nous devons découvrir ce privilège. Et savoir nous en servir. Et pas n'importe comment. La Bible nous dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. » Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors la première chose que nous allons voir, c'est que nous avons le privilège d'avoir le nom de Jésus. C'est le privilège de la nouvelle alliance. Et vous savez, c'est quelque chose qui est très important de comprendre à fonctionner dans notre alliance. Parce qu'il y a tellement de chrétiens qui reviennent en arrière. Qui cherchent des passages de l'Ancien Testament, des prières de l'Ancien Testament. Des actions que certains, même des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, pouvaient faire dans l'Ancien Testament sans comprendre qu'aujourd'hui nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament, mais nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Nous avons un contrat avec Dieu que Dieu a contracté avec nous au travers du sang de Jésus, avec tout un tas de privilèges que nous avons. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez comment ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu s'approchaient de Dieu, ou se retrouvaient dans des situations difficiles, sans avoir réellement de solution, bien parfois ça peut nous étonner. Certains mouraient d'un seul coup sur le champ, prématurément, paf, comme ça. D'autres passaient par des combats terribles. Par exemple, dans la prière, Daniel, quand vous lisez le livre de Daniel, on s'aperçoit que très souvent, Daniel était là, il était obligé de faire de longs jeûnes et prières pour essayer de percer le ciel. Pour essayer d'avoir une réponse à ses prières. On les voit, ils ont des combats terribles. Par exemple, Élie va remporter une immense victoire contre les prophètes de Baal. Il est là, il y a plein d'idolâtrie dans le pays. C'est une catastrophe. Israël est mise dans l'idolâtrie. Akab et Jézabel, le roi Akab et la reine Jézabel servent le diable. Tout le peuple d'Israël est là, fait de l'idolâtrie, adore des démons. Et Élie reçoit vraiment une parole de Dieu. Il provoque tous ces esprits sataniques. À tel point qu'on se retrouve avec Élie qui remporte une victoire gigantesque. Et en fait, même les prophètes de Baal, ils les éliminent. Et tout le peuple d'Israël revient à Dieu. Sauf que quelques temps après, d'un seul coup, Élie se sent complètement désemparé. Et il fuit dans le désert. Et Dieu est obligé de lui parler dans le désert. En lui disant, qu'est-ce que tu fais, Élie? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est moi qui t'ai conduit dans le désert? Et il dit, non, on veut me tuer. Comme si Dieu n'était pas capable de le protéger. Alors qu'il venait de remporter une victoire extraordinaire. Où il a invoqué la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est tombée sur son sacrifice. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde est confus. Sauf Élie. Et là, Élie remporte une telle victoire. Que ses esprits sataniques s'écartent. Mais d'un seul coup, ils se sentent désemparés. Ils commencent à déprimer. Ça ne va plus du tout. Ils pensent qu'il est resté tout seul. Et Dieu est obligé de lui dire, non, il y en a encore 7000 qui sont avec moi.
Et
ils se sentent tellement mal. Et de tels textes peuvent nous surprendre. Abraham est là, Dieu lui dit de préparer un sacrifice pour sceller l'alliance. Il prépare des animaux. Il les coupe comme Dieu lui demande de le faire, de préparer l'alliance. Et d'un seul coup, il y a tout un tas de ténèbres qui lui tombent dessus. Et Abraham est désemparé. Il est par terre, entre guillemets, il est complètement par terre. Spirituellement, moralement, il se retrouve avec des combats incroyables. Daniel est là, il prie. Il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. Et c'est difficile pour lui. C'est très difficile. Parce qu'il y avait des combats dans la prière. Des combats terribles dans la prière. Il y avait des combats terribles contre les puissances des ténèbres. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils se retrouvent avec des difficultés. Et c'est pour ça que quand je vois des chrétiens qui vivent dans ces choses-là, en train d'essayer de combattre les démons, en train d'essayer de se battre dans la prière. Il y a des gens qui vous disent, je me suis bagarré dans la prière. Mais comment tu peux te bagarrer dans la prière? Ça veut dire que tu te bagarres contre Dieu puisque tu pries Dieu. La prière n'est pas une bagarre. Non, la prière n'est pas une bagarre. La prière, c'est venir devant ton Père céleste. Dans le nom de Jésus, nous allons le voir. Dieu nous a donné des privilèges extraordinaires. Il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il l'a obtenu. Et nous sommes des privilégiés. Ne soyons pas comme le frère aîné du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, nous avons cette histoire. Dans cette histoire, il y a cet aîné du fils prodigue, cet aîné de la maison. Dans Luc chapitre 15, et on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Et là, on voit l'attitude du fils aîné, qui est souvent l'attitude des chrétiens. L'attitude du chrétien qui ne comprend pas qu'il est le fils de la maison. Donc, le fils prodigue, souvent, Luc 15, on va parler du fils prodigue, le fils qui fait plein de gaffe alors qu'il avait tout.
Qui méprise
l'héritage du Père. Tiens, ça nous rappelle ce que nous avons partagé dans les dîmes et les offrandes, ça revient ce matin.
Je ne
sais pas pourquoi ça revient, mais ça parle à quelqu'un. De mépriser ce qu'on reçoit gratuitement. Et ce fils prodigue avait méprisé effectivement l'héritage du Père. Il avait pris sa part. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le dépenser n'importe comment. Il a été gaspiller ces choses. Maintenant, quand le fils prodigue revient à la maison, le père l'accueille. Nous savons que c'est l'image du Père Céleste qui accueille le pécheur perdu ou le rétrograde. Qui vient et qui se repent. Par contre, ici, nous avons le fils aîné. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Verset 26, il appela un des serviteurs et lui demande ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ici, on voit cette attitude du fils aîné. Le fils aîné qui peut jouir de tous les biens du père. Comme le fils prodigue. Mais l'avantage qu'il avait, le fils aîné, c'était lui l'aîné. Et le fils aîné, en général, a plus que des privilèges pécuniers. Il a aussi le privilège de l'autorité. Et là, on voit que ce garçon n'avait rien compris. Il vivait d'une façon restreinte. Il se limitait lui-même. Et quelque part, il était frustré. Et souvent, c'est le problème des chrétiens. Ils se limitent eux-mêmes. Ne comprenons pas qu'il y a un certain nombre de privilèges que Dieu nous a donnés en Christ. Ils se limitent et sont frustrés. Et quand ils voient d'autres personnes être bénies, ça les énerve. Que ça ne t'énerve pas. Si tu vois quelqu'un monter parce qu'il obéit au Seigneur, peut-être qu'il n'est pas parfait, peut-être qu'il a fait ses erreurs.
Vous
voyez, le fils aîné, là, il disait, moi, je n'ai jamais désobéi à tes commandements, mon général.
C'était
monsieur parfait, mais c'était aussi monsieur frustré.
Et il y
a beaucoup de chrétiens qui veulent être trop parfaits et ils sont frustrés. La première chose que vous devez savoir sur le nom de Jésus,
c'est que
c'est un privilège de la nouvelle alliance. Un privilège que vous devez comprendre. Alors arrêtez de lire des prières de l'Ancien Testament sans les actualiser avec le privilège. Sinon vous allez être comme ce fils aîné. Croire que vous êtes parfait et vous allez toujours regarder et pointer le doigt sur les autres. Et vous allez vous retrouver dans la confusion parce que vous ne serez pas épanoui. Vous serez ce genre de chrétien comme le fils aîné, jaloux des autres, en colère contre ceux qui réussissent. Et nous avons beaucoup de gens comme ça. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits comme Jésus était parfait. Mais d'un autre côté, tu dois comprendre que les privilèges, c'est la grâce. Et ne point mépriser la grâce. Vous savez, il y a des gens qui méprisent les privilèges de deux manières. Soit en faisant n'importe quoi avec. Ça, c'est la première des choses quand on méprise un privilège. C'est-à-dire que tu utilises ta position ou l'argent que tu as reçu comme ça et que tu en fais n'importe quoi. Et l'autre façon de mépriser un privilège, c'est de ne pas l'utiliser correctement. Dans le sens, tu fais rien de mal, mais tu fais rien de bon avec. Tu ne fais rien de bon avec. C'est la deuxième façon où tu peux mépriser quelque chose. Et vous voyez, le nom de Jésus, on peut le mépriser de deux manières. Soit en faisant n'importe quoi avec, ou soit au contraire, en ne comprenant pas ce que nous avons, la position que nous avons, le privilège que nous avons. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est un privilège de la nouvelle alliance. Un privilège qui va vous donner des droits. Un privilège que vous devez comprendre. Donc il va falloir savoir correctement utiliser le nom de Jésus. La deuxième chose, et nous allons l'illustrer dans ce merveilleux texte de Actes 3 où Pierre va guérir un paralytique. C'est ce qu'on appellera la procuration. La procuration. Donc le document légal qui vous donne un droit d'utiliser ce nom de Jésus, de représenter le Seigneur sur la terre. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez savoir. Le nom de Jésus va vous donner le privilège de représentation du royaume sur la terre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ici, nous allons lire l'histoire de Pierre et Jean qui vont passer devant un paralytique. Et il y a quelque chose de très particulier qui ressort bien de ce texte, qui nous montre cette procuration, cette représentation. Nous représentons, nous, le corps de Christ. L'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau dans le monde, nous représentons Dieu et le royaume sur la terre. Jésus, la tête, est au troisième ciel, assis à la droite du Père. Mais en tant que chrétien né de nouveau, tu as une procuration pour représenter, pour agir dans le domaine d'action où Dieu te permet d'agir sur la terre en son nom, dans le nom de Jésus. Et ça, tu dois le savoir, que tu as une procuration. Ici, ça va très bien ressortir. Pierre et Jean montaient ensemble dans le temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande à l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant que Pierre et Jean allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Regardez bien verset 6. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or, ni argent, ni or, sous-entendu, à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Lis-moi juste le verset 6, s'il te plaît.
Murongo gatandatu ngo Petero aramubwira ati ifeza n'inzahabu ntavyo mfise ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti va hasi utambuke.
Alors la deuxième chose qui est important au nom de savoir à propos du nom de Jésus,
ikintu cyakabiri cyo kumenya mu izina kw'izina rya Yesu,
c'est ce petit morceau de phrase, mais ce que j'ai. Je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Et là, il va dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Pas ce que je vais avoir. Ou pas ce que j'aurai donc un jour peut-être, mais ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai, je te le donne. Ceci nous montre plusieurs choses. Il lui dit au nom de Jésus de Nazareth. Regardez bien le commentaire que Pierre va faire juste un peu après sur ce qui s'est passé. Verset 16. Dans ce passage ici de Acte 3, il y a deux versets très importants. Le verset 6 et le verset 16. Le verset 6 et le verset 16, ce sont deux versets qui sont fondamentaux sur ce passage. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. On voit que Pierre n'a pas prié. Mais Pierre a simplement utilisé le nom de Jésus. Sous l'inspiration du Saint-Esprit dans ce cas-là, pour parler et dire à cet homme, voilà, je te transmets la puissance. Je te transmets la puissance de Dieu. Reçois-la et vis ton miracle. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire, frères et sœurs. Dieu nous a donné une procuration comme nous allons le voir. Avec un champ d'action sur cette procuration. Nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi avec. Mais nous pouvons utiliser le nom de Jésus pour faire les œuvres du royaume. Et ici, regardez ce que Pierre dit. Car c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. Et vous connaissez, c'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en lui.
C'est le kwizera. Murongo wa 16 uravuga ngo kandi uyu uwo mubona kandi muzi kuko yizeye izina ry'uwo iryo zina ryamuhaye inkomezi.
Donc Pierre dit bien, c'est la foi en son nom, en son nom.
Aravuga ngo yizeye izina ryiwe ni ukwizera muri iryo zina.
La procuration est là. Tu dois la connaître et tu dois l'utiliser à bon escient et pas n'importe comment. C'est ce que nous allons voir après. Ce sont d'autres points que nous allons voir ensemble. Mais tu as une procuration. Ça t'appartient. Le fait d'être né de nouveau, tu as le droit d'utiliser sur la terre le nom du Seigneur Jésus. Le fait d'être né de nouveau te donne le droit légal d'utiliser ce nom. Parce que là, tu vas dire non, ça c'est Pierre. Pierre était apôtre. Donc c'est normal, lui il pouvait utiliser le nom du Seigneur, Jésus lui a fait des dons particuliers. Non, nous allons voir dans Marc 16, verset 17, que cette procuration est une procuration que Dieu nous a donnée à tous. En tant que corps de Christ. Parce que certains d'entre vous, souvent vous pensez, ah oui, mais moi, je ne suis pas serviteur de Dieu, donc je ne peux pas forcément prier comme ça, ou faire ceci, ou proclamer le nom de Jésus. Non, c'est faux. Tu as le même droit qu'un serviteur de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu au même titre qu'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu a quelque chose de spécial, une autorité particulière par rapport au ministère que Dieu lui a donné. Mais en tant que chrétien né de nouveau, tu as aussi des droits. Tu as une procuration. Et ça, c'est important à comprendre. Rappelez-vous qu'une procuration, c'est un droit légal de représenter quelqu'un. Donc tu représentes le Seigneur par rapport à certaines situations. Comme si Jésus était là en chair et en os devant la situation. Et on va voir justement comment utiliser cela. Voilà, Dieu dit, c'est Jésus qui parle avant de partir au ciel. Voici les miracles, les signes particuliers dans le grec original qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, est-ce qu'on dit, voici les signes qui vont accompagner les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants et les évangélistes? Non, il est dit quoi? Il est dit qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Combien de croyants on a ici? Vous êtes des croyants. Donc cette parole vous concerne. Dis, cette parole me concerne. Répète, cette parole me concerne. Marc 16, 17 me concerne. Amen. C'est important. En mon nom. En mon nom. En mon nom, il, c'est vous et moi. Il, c'est ceux qui auront cru. Il, c'est tous ceux qui appartiennent à Christ, qui sont nés de nouveau. Qui sont dans le royaume de Dieu. Jésus leur a donné une procuration. Une procuration. En mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Il n'est pas dit ils mettront 3 semaines pour faire partir un démon. Nulle part dans la Bible on voit que quelqu'un qui va chasser un démon met 3 semaines pour délivrer une personne. Si tu as autorité, tu as autorité. Sinon c'est que tu n'as pas autorité ou que tu n'as rien compris à l'autorité. Et on va voir exactement pourquoi parfois certaines personnes ont des problèmes à exercer leur autorité en Christ. Je vais vous montrer 2 choses qui sont importantes, juste les 2 derniers points, on va en parler. Donc il est très important de comprendre que tu as un droit de chasser des démons. Tu vas me dire, oui, mais moi, je ne rencontre pas des possédés toutes les 5 minutes. Non, mais parfois tu peux avoir des choses qui te tournent autour. Et tu dois apprendre au nom de Jésus, apprendre autorité, donc tout ce qui peut essayer de te tourner autour. Tu sens qu'il y a des trucs. Vous savez, il faut être sensible au monde spirituel. Il y a des fois des choses qui viennent contre nous et qui sont du mauvais surnaturel, vous voyez ce que je veux dire? Dans ces cas-là, tu as le droit de dire au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits sataniques qui essayent de me chercher des histoires de s'écarter de ma vie. Tu as le droit de faire ça. Des fois, il y a des gens qui prévoient des plans et tu sens des trucs bizarres autour de toi. Tu as le droit au nom de Jésus de dire je proclame la parole de Dieu. Et tous ces esprits sataniques qui essaient d'utiliser ces personnes, je lis ces esprits mauvais et je les chasse, qui s'écartent. Tu as le droit de le faire. Maintenant, si c'est toi qui fais des bêtises, ne viens pas dire que c'est des esprits sataniques. La chair n'est pas Satan.
Amen.
Parce que les gens ont toujours l'habitude de dire le moindre truc qu'ils font et ils se mettent dans des mauvaises positions. Ah, le diable a fait ça contre moi. Pas forcément. C'est peut-être toi qui t'es mis vraiment dans une mauvaise situation. Et c'est trop facile de dire c'est le diable, on va chasser, on va. Hein. Ça sert à rien de chasser ce qui n'est pas chassable. Les démons se chassent, la chair ne se chasse pas. En mon nom, ils chasseront les démons. Il est dit aussi, ils parleront de nouvelles langues. C'est un droit. Si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, sache que ton droit, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et on va voir pourquoi parfois des gens ne le sont pas. Si tu ne vis pas à la lumière de ce que la parole de Dieu dit, tu dois te poser des questions sur ce qui se passe et pourquoi. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, s'il vous plaît, merci. Ils saisiront des serpents. Alors ne jouez pas à attraper Inzoka ou Inzoka.
Hein,
vous ne prenez pas en disant, tu vois, Jésus a dit. Non, mais dans la Bible, nous avons un exemple avec Paul, qui a vécu ça sur l'île de Malte à la fin des Actes.
Où
il y avait du bois, il a pris des brindilles de bois, et dedans, il y a eu un serpent qui est sorti.
Et
il ne s'est rien passé. Il a été mordu par ce serpent. Et il n'a pas été touché. Alors, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et là aussi, frères et sœurs, tu n'as pas peur des pièges des autres. Il y a des gens qui ont guéri miraculeusement de ce genre de choses. Mais il y en a aussi qui sont morts. Écoutez l'Esprit de Dieu. Et ne vous faites pas piéger par des choses idiotes. Il y a parfois des gens qui meurent vraiment parce qu'ils n'écoutent pas leur nature spirituelle. Mais Dieu fait des miracles.
Il
y a plusieurs personnes qui ont guéri d'empoisonnement d'une façon miraculeuse. Ensuite, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et moi, j'ai vraiment envie de voir beaucoup plus de malades guéris ici. Vous savez, au Burundi, les gens ont la foi pour le salut assez facilement, mais pour la guérison divine, c'est beaucoup plus compliqué apparemment.
Et
il faut que cette foi augmente. Parce que si vous avez la foi dans les médecins, bon nombre d'entre vous, vous allez mourir. Ici, on sait quand on rentre à l'hôpital, mais on ne sait jamais si un jour on va en ressortir.
Enfin,
verticalement. On en sort toujours. Mais il y a des gens qui en sortent verticalement et il y en a d'autres qui en sortent horizontalement. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc le mieux, c'est d'avoir foi dans la guérison divine. Amen. Et ça nous appartient, frères et sœurs. C'est un champ d'action qui nous appartient. Où nous pouvons, c'est des choses que nous avons.
Ce
n'est pas des choses que nous aurons.
Ce n'est
pas quelque chose que Dieu un jour peut-être va nous donner. C'est quelque chose qui t'appartient. C'est la deuxième chose que tu dois savoir sur le nom de Jésus, c'est que tu as des privilèges qui t'appartiennent maintenant.
Des choses
qui sont à toi. Dis, j'ai des privilèges. Dans le nom de Jésus. Je peux chasser des démons. Je peux guérir des malades. Je peux imposer les mains aux malades. Et voir les malades guéris. Dans le nom de Jésus. Je peux parler en langue. Cela m'appartient. Dans le nom de Jésus. Amen. La troisième chose que vous devez savoir, c'est le privilège sur la prière. On va regarder Jean chapitre 16. Privilège dans la prière, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. On va lire du verset 23 jusqu'au verset 27. Le nom de Jésus dans la prière. C'est la troisième chose. D'abord, on a vu, première chose, que c'est des privilèges du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Par rapport à l'Ancienne Alliance. Ensuite, nous avons vu que c'est une procuration, donc nous avons. J'ai cela maintenant. Ça m'appartient maintenant. Ce n'est pas quelque chose que j'aurai un jour peut-être. Parce que les miracles, les signes particuliers pour ceux qui croient. Troisième chose, ce nom nous donne des privilèges incroyables dans la prière. Je vous ai dit en introduction que dans l'Ancien Testament, très souvent c'était difficile pour eux. Ils priaient, ils jeûnaient, ils priaient, ils jeûnaient. Les cieux n'étaient pas ouverts. Ils étaient en train d'essayer de forcer les portes quelque part. C'était des difficultés. Des moments où ils étaient là pour essayer de percer le ciel. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'avait pas ouvert les cieux. Regardez ce que Jésus va dire juste avant sa mort et sa résurrection. Il va parler à ses disciples quelques dizaines d'heures avant de se donner en sacrifice. Il va dire, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. En mon nom, il vous le donnera. Ça, c'est complètement nouveau. Jésus leur avait parlé de la prière au début de son ministère. Parce que les disciples voyaient que Jésus avait une prière qui perçait. Et alors, ils ont posé une question, « Seigneur, apprends-nous à prier, on a besoin de savoir. » Et Jésus va leur enseigner cette prière que nous avons tous appris quasiment sur la terre. En mettant nos mains comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que Amen. Surtout quand on était petit, on loupait à peu près les trois quarts des mots. Et ce que Jésus va faire, il va donner un modèle de prière. Mais il n'est pas dit en son nom. Notre Père qui êtes aux cieux, nulle part dans cette prière, la prière du Notre Père, vous avez le nom de Jésus. Pourquoi ? Eh bien, nous l'avons vu. C'est le privilège de la Nouvelle Alliance. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Là, on voit que Jésus va leur parler d'un jour nouveau. C'est avant la croix. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est nouveau. Verset suivant, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, regardez bien, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas demander en son nom. Parce que Jésus, le nom de Jésus est attaché à l'œuvre de Jésus. Le nom de Jésus est attaché à son œuvre, ce qu'il a réalisé à la croix. Le nom de Jésus et l'œuvre de Jésus, c'est un. À chaque fois que tu invoques le nom du Seigneur, tu dois avoir une révélation sur ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. Sinon, tu utilises le nom de Jésus n'importe comment. Tu dois savoir ce que Jésus a fait réellement pour toi à la croix du calvaire. Pour pouvoir utiliser le nom du Seigneur Jésus. C'est pour ça que Jésus leur dit ça. Jusqu'à présent, Mais en ce jour-là, c'est-à-dire le jour où je vais recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, demanderez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je vous dis, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Lise bien le verset 26, s'il te plaît.
Kuko kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje kandi simbabwira ko nzosabira nzobasabira data.
Jésus leur dit quoi ici?
Yesu yababwiye iki ngaha?
Il leur dit,
yababwiye.
Bah écoutez.
Ati.
Moi d'habitude quand vous voulez que il y ait quelque chose qui se fasse,
ati mubisanzwe iyo mushaka ko hari ikintu gikoreka.
Vous les disciples, vous venez vers moi Jésus.
Mwebwe abigishwa muraza kuri jewe Yesu.
Et vous me demandez de prier.
Mukansaba ati tusengere.
Mais là, c'est fini ça.
Atari kubu ibyo bizobirangiye.
C'est plus moi que vous allez à qui vous allez demander.
Ati si jewe muzosaba.
Maintenant vous allez pouvoir demander vous-même aussi.
Ati ubu muzoshobora kwisaba.
Vous allez pouvoir demander directement.
Ati muzosaba mwebwe mwishikire.
Au travers de moi en mon nom. Mais vous ne viendrez plus vers moi pour me dire, oh Jésus, tu vois, il y a un malade qui est là. Oh Jésus, tu vois, il y a un démoniaque qui est là. Oh Jésus, on a besoin d'argent pour voyager. C'est fini. Vous ne demanderez plus à moi. Maintenant, vous avez un autre privilège. Vous demanderez directement au Père. Et il vous exaucera directement. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le nom de Jésus dans la prière. Et vous savez, ce n'est pas une petite formule magique. Parce que quand on entend certaines personnes, on a l'impression que pour eux, c'est une formule magique. Ils sont là, ils racontent tout un bla 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 à Dieu, tout un baratin à Dieu, tout un tas de plaintes à Dieu. Et ils terminent par des mots au nom de Jésus. Et en fait, ici on voit que Dieu nous donne des privilèges dans la prière. Tu peux venir auprès de ton papa directement et il t'écoute. Son papa est là pour écouter ce dont tu as besoin dans le champ d'action où il te permet de prier. Quatrième chose que vous devez savoir sur le nom de Jésus. On va revenir dans Acte 3, au verset 16. Là, ça va nous montrer l'exercice de la foi. L'exercice de la foi dans le nom de Jésus. C'est très important. C'est important de comprendre que nous avons des privilèges au-dessus de ceux de l'Ancien Testament. C'est important de savoir que nous avons une procuration qu'il nous a donnée. C'est important de savoir que nous avons ce privilège dans la prière. Maintenant, dans les deux derniers points, nous allons voir l'exercice de la foi dans le nom de Jésus. Parce que ça, c'est un ingrédient indispensable. La foi en son nom. La foi en son nom. Au verset 16, Pierre dit clairement à la foule, c'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom. Comme je vous le disais juste il y a quelques minutes, c'est pas en disant au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela, que les choses vont fonctionner. Ce n'est pas une petite formule que tu insères un peu partout à droite à gauche. Ce n'est pas du tout ça, exercer sa procuration. Ce n'est pas du tout ça. C'est le faire dans les conditions divines. Le nom de Jésus doit être utilisé avec l'exercice de la foi. Avec l'exercice de la foi. Tu dois exercer ta foi. Parce que sinon, tu peux prononcer autant de au nom de Jésus que tu veux, il ne se passera rien. Et beaucoup de gens le font. Ils n'arrêtent pas de dire au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela. Ils utilisent le nom de Jésus n'importe comment. Et cela ne porte pas dans le monde spirituel. Lorsque tu prononces le nom de Jésus, tu dois te baser sur les promesses de Dieu. Et rappelez-vous que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et à partir du moment où tu utilises le nom de Jésus, que ce soit dans la prière, que ce soit pour exercer directement l'autorité, tu dois utiliser ta foi. La foi va t'amener à voir les choses se réaliser dans ta vie. La foi amène à la réalité ce que Dieu t'a promis. Que ce soit dans sa parole, que ce soit personnellement, c'est au travers de ta foi que tu vas voir la création, la matérialisation devant tes yeux de ce que Dieu t'a promis. Et il faut que tu apprennes à utiliser ta foi. Tu dois bien sûr méditer sur les promesses de Dieu, et particulièrement celles du Nouveau Testament qui sont notre alliance. Tu dois comprendre la relation que tu as avec Dieu dans la prière, et tu dois apprendre à utiliser ta foi dans le nom du Seigneur. Dieu te donne des privilèges, mais tu dois compter sur cet acquis. Ce n'est pas de mettre des « au nom de Jésus » dans une prière qui amène le résultat. S'il
n'y
a pas de foi, il ne se passera rien. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il n'est pas possible de lui plaire, c'est-à-dire d'être agréé par Dieu, de voir sa puissance descendre. C'est pourquoi tu dois comprendre comment fonctionner dans la foi. Et quand tu pries ou quand tu proclames quelque chose au nom de Jésus, tu dois t'attendre à ce que les choses se produisent. Si tu ne t'attends pas à ce que les choses se produisent, je vais te dire une chose. Il ne se passera rien. Donc, utiliser le nom de Jésus. Le quatrième principe, c'est de l'utiliser dans la foi, par la foi. C'est pour ça que nous devons étudier ce que c'est que la foi. Étudier comment libérer notre foi. Comment faire grandir notre foi. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons utiliser le nom de Jésus n'importe comment sans foi. Et on va être quelque part déçus. Donc se développer dans la foi
va
être quelque chose de parallèle à l'utilisation de notre procuration. Sinon tu ne verras pas le résultat désiré. Ça veut dire que ta prière ne sera pas efficace. Ça veut dire que ce que tu proclames ne sera pas efficace. Parce que rappelez-vous que Proverbe nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et tu as quelque chose de spécial parce que tu es chrétien né de nouveau. Tu as une position à tenir. Tu as à repousser les ténèbres. À repousser les mauvaises circonstances. À détruire les montagnes des défis. Et ça, tu ne pourras le faire seulement que si tu sais utiliser le nom de Jésus dans la foi. Si tu sais utiliser ce nom, proclamer les choses, mais si tu sais aussi venir devant ton Père dans le nom de Jésus, sachant que si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. Et s'il t'écoute, tu sais que tu possèdes ce que tu lui as demandé. Et par ta foi dans le nom du Seigneur Jésus, tu ramènes les choses à la réalité sur la terre.
C'est
pas très compliqué, mais ça demande de se développer. La cinquième chose que vous devez savoir sur le nom de Jésus, c'est que si vous ne comprenez pas l'autorité en général et la soumission,
Vous
ne pourrez jamais voir de puissants résultats au nom du Seigneur
Jésus.
Matthieu chapitre 8 nous donne une excellente illustration sur cela. Ce sont des passages que nous devons méditer et reméditer. Matthieu 8, à partir du verset 5. Si tu ne comprends pas ce que c'est que l'autorité et la soumission dans la vie en général, je ne crois pas que tu pourras aller loin en proclamant le nom de Jésus. Et ça, c'est le problème de certaines personnes. Il y en a qui savent très bien qu'ils ont des privilèges. Il y en a d'autres qui découvrent qu'effectivement, ils ont une autorité en Christ, ils ont une procuration. Mais après, ils vont essayer. Certains manquent de foi, mais d'autres ne comprennent pas ce que c'est que l'autorité. C'est-à-dire comment Dieu a mis la hiérarchisation. Rappelez-vous que la Bible nous dit que toute autorité ou système d'autorité vient de Dieu. Ça veut dire que Dieu fonctionne avec des autorités. Dans le ciel, Dieu est Dieu, il n'y a pas d'assemblée générale ou de sénat. Dieu est souverain, point très, comme vous dites ici. Dieu décide et tout le monde obéit. Et c'est pas, je vois pas les archanges ou les chérubins dire entre eux pourquoi Dieu, le Père a demandé ça maintenant là. Moi je suis pas d'accord avec ça.
Il n'y
a pas de discussion et de négociation dans le ciel.
Il
y a Dieu qui parle et tout le monde dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. C'est tout. Il
n'y
a pas de discussion. Et Dieu sur la terre a mis aussi un système d'autorité que Dieu a voulu volontairement pour éduquer, pour protéger, pour corriger. Imaginez-vous dans une armée s'il n'y avait pas un respect de l'autorité, par exemple. Les militaires, vous savez ce que c'est. Les militaires savent ce que c'est que l'autorité. Et ils savent très bien que désobéir à l'autorité, ça peut leur coûter très très cher. Ce sont les ordres. Bien mon général. C'est pas, oui général, vous avez donné ces ordres, mais bon, bah, nous on a pensé qu'il fallait faire autrement. Non, parce que dans une armée, on vous explique ce que c'est que l'autorité. De gré ou de force, mais vous devez le comprendre. Et vous savez qu'il n'y a pas de discussion sur un supérieur. Il
n'y
a pas de discussion dans l'armée. Celui qui discute un ordre, il est sanctionné. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que Dieu est un Dieu d'autorité. Et cet homme que nous voyons ici, c'était un centenier, quelqu'un qui était dans l'armée. L'armée romaine, Matthieu 8, verset 5 donc. Il est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Donc un militaire, un officier supérieur. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot. Littéralement, dans le grec, il est dit « parle la parole ». C'est ça que ça veut dire, littéralement. « Parle la parole ». Parce que cet homme avait repéré quelque chose d'extraordinaire. Et il va faire une comparaison avec l'autorité naturelle. « Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Parle la parole dans le monde naturel, mais ces paroles chargées d'onction et de puissance vont amener la puissance de Dieu à descendre sur mon serviteur, quelle que soit la distance, parce qu'il n'était pas à côté du serviteur. Donc, cet homme savait quelque chose. Regardez bien verset 9. Car moi, regardez bien, c'est un militaire. Un homme qui sait parfaitement ce que c'est que l'autorité, les ordres et l'obéissance. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Vous voyez, cet homme était un officier supérieur, mais il avait des gens au-dessus de lui et il avait des gens en dessous de lui. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, je parle, je donne des ordres, va, et il obéit, il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait.
Kumurongo w'icenda ngo kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza mfise abasoda ntwara iyo mbabwiye umwe ntigenda aragenda n'uwundi ati ngwino akaza nabarira umushumba wanje ntikora iki akagikora.
Regardez bien ici. Cet homme
sait
ce que c'est que l'autorité dans le naturel. Il sait ce que c'est que quelqu'un de supérieur qui donne un ordre et qui a une autorité envers quelqu'un. Et comment cet ordre ne peut pas être discuté. Mais il doit être obéi sans discussion. Il le sait. Et cet homme avait vu que quand Jésus parlait la parole, alors quelque chose se produisait. Quelque chose se produisait. Et il savait que ça s'appelait l'autorité. Parce que c'est exactement ce qu'il va dire à Jésus. Parle la parole, tu n'as même pas besoin de venir chez moi, je ne suis pas digne de toi. Il était un converti, rappelez-vous.
Et
regardez bien, au début du verset, il y a cette préposition, car. Car. Car je sais, sous-entendu, comment ça marche. Je sais très bien comment ça marche. Parce que je sais que ce que nous voyons dans le naturel, c'est une loi spirituelle. Cet homme savait cela. Il avait compris que ce qu'il pouvait voir dans le naturel, dans cette loi, la soumission de l'autorité et des ordres, c'était quelque chose qui existait dans le monde spirituel. Et c'est exactement ce qu'il dit à Jésus. Regardez la réaction du Seigneur Jésus lui-même. Jésus est devant un païen, quelqu'un qui n'a pas été éduqué, verset 11. Jésus est devant un païen, quelqu'un qui n'est pas éduqué dans la loi de Moïse, mais quelqu'un qui croit. Regardez bien, Jésus, après l'avoir entendu, fut, dans une traduction, fut dans l'admiration. Cherchez-moi un autre texte dans les évangiles où il est parlé que Jésus va être dans l'admiration. Devant quelqu'un qui fait une déclaration. Cherchez, si vous trouvez, vous viendrez voir. Jésus fut dans l'étonnement ou dans l'admiration littéralement. Et il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé quoi ? Une aussi grande foi.
Murongo w'icumi yaravuga ngo Yesu avyumvise biramutangaza ababwira abamukikuje ati ndababwira ukuri sinari bwigere mbona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli.
Ce que cet homme connaissait dans le naturel à propos de l'autorité.
Icyo umuntu yarazi mu buryo busanzwe kuvyerekeye uburongozi.
Savait que ça fonctionnait encore bien mieux dans le surnaturel.
Yarazi neza yuko bikora neza gusumba mu buryo
dans le surnaturel.
Mu bidasanzwe.
Dans le surnaturel. C'est ce qu'il dit à Jésus. Et Jésus est dans l'admiration. Et il dit, ah, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. Mais si tu ne comprends pas l'autorité, la soumission et les ordres dans le naturel, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais exercer efficacement dans le surnaturel. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. De ne pas comprendre cela. Le système d'autorité et de soumission Cet homme va le comprendre parce qu'il est officier supérieur. Et il sait comment dans l'armée ça marche. Il sait qu'il n'y a pas de discussion. Les ordres, ce sont les ordres. Un supérieur est un supérieur. Je dois le respecter. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne et il n'y a pas d'alternative. Et quand il a vu ça dans le monde spirituel, comment Jésus faisait, il lui dit, dis seulement une parole, parle la parole Seigneur. Et je sais que le monde spirituel, la puissance de Dieu va être activée. Jésus le regarde, il fut étonné. Regardons verset 12 maintenant. J'aime bien ce texte, il est très puissant. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ça, c'était aux Israélites qui seraient incrédules. Regardez bien verset 13 maintenant. Le verset 13, c'est le résultat. Vous savez, on veut toujours voir des beaux résultats. Le problème, c'est que souvent, nous ne comprenons pas comment appliquer les lois divines. Oui, mais pasteur, nous sommes sous la grâce. Oui, tu es sous la grâce. Mais la grâce ne te permet pas de faire n'importe quoi. La grâce même est une loi spirituelle, mon frère, ma
soeur.
Et le royaume de Dieu a une constitution. La constitution du royaume qui nous est donnée dans le Nouveau Testament. Et cette constitution, tu dois la respecter. L'autorité spirituelle s'exerce. Mais pas n'importe comment. Jésus dit au centenier, va qu'il soit fait selon quoi ? Ta foi. Parle la parole. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. Mais j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, viens, et il vient. L'autre, vient. Ils obéissent.
Je
n'ai pas besoin que tu viennes jusqu'à chez moi, Seigneur. Parle seulement la parole. Avec l'autorité qui t'a été donnée. Et je sais que ça va se passer. Et Jésus lui dit, va. Va qu'il soit fait selon ta foi. Et le résultat est à la fin du verset 13. Son serviteur fut guéri. Le résultat est là. Tout le monde veut des résultats. Si tu pries, tu veux des résultats. Si tu parles la parole, tu veux des résultats. Alors pose-toi la question. Est-ce que si souvent, pourquoi est-ce que tu n'as pas de résultat ? Si tu n'as pas de résultat, pose-toi la question. Est-ce que tu as compris ta procuration dans le nom de Jésus ? Est-ce que tu as compris tes privilèges ? Mais est-ce que tu as compris aussi que tu dois exercer avec la foi dans le nom de Jésus ? Mais aussi, est-ce que tu n'as pas un problème dans la compréhension de ce qu'est l'autorité et la soumission dans le naturel? Vous voyez, il y a beaucoup de choses, et un jour je vous ferai un message là-dessus, que nous vivons dans le naturel et que nous transposons dans le monde spirituel. C'est très courant. Par exemple, la relation d'un père et d'un fils. Quand ça s'est très mal passé avec ton père naturel, tu as du mal avec ton père. Mais ça, tu dois en guérir et tu peux en guérir. Parce que tu as une image qui est mauvaise avec ce mot-là. Il y a des gens qui sont super spirituels, qui sont tout le temps en train de dire « Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime » et ils méprisent les autres. La Bible dit la même chose. Comment tu dis je peux aimer Dieu que je ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton prochain? C'est la même chose pour l'autorité. Comment tu peux respecter Dieu et sa parole alors que tu es incapable de respecter quelqu'un dans le naturel?
Vous
voyez, il y a plein de choses comme ça. Jésus a dit lui-même, comment est-ce que dans, avec les richesses de ce monde, si vous avez été infidèles, comment est-ce qu'on va vous donner les richesses du royaume ?
Yesu yaravuze ati mbega utabaye umwizigi wo mu butunzi bwo ngaha ku isi bazobaha gute ubutunzi bwo mu ijuru.
Il y a tellement de choses qu'on pense être dans le monde spirituel et nous ne le sommes même pas dans le naturel.
Hari ibintu byinshi twibaza ngo turi mu isi muhemo ariko no mu bisanzwe mu byo tubona atacu turi.
Comment quand tu t'approches des hommes donc des êtres humains tu es tout le temps en train d'essayer de soutirer quelque chose? Tu as une relation complètement déséquilibrée avec ton semblable.
Tu n'es
jamais un donneur, tu es toujours un preneur. Comment est-ce que tu veux avoir une relation de prière équilibrée avec ton Dieu? Seigneur, donne-moi.
Bon,
maintenant que tu m'as donné, Seigneur, salut, à la prochaine, je te redirai mes prochains besoins. La plupart des gens vivent de ça, frères et sœurs. Dieu est pour eux simplement une source d'avoir des choses. Donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi des enfants, donne-moi une chemise, donne-moi un boulot, donne-moi. Oui, Dieu t'a donné en premier. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Ne te fais pas d'illusions si tu es tout le temps une pompe avec les hommes dans tes relations. Ne va pas me dire que tu es super spirituel et que tu pries 3 heures par jour. Sinon, je vais t'enregistrer, je vais décortiquer ta prière et je vais la mettre devant un miroir. Frères et sœurs, soyons réels. Soyons vrais. 2015, est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois vrai? Oh non, vous n'êtes pas convaincu là, je sais, je n'irai pas plus loin. Dans mes commentaires, sois vrai, transparent. C'est-à-dire que de toi transpire réellement qui tu es. Si tu n'aimes pas une personne, ne va pas lui dire « Oh, je t'aime beaucoup !» Je t'aime beaucoup parce que je peux recevoir de toi.
Non,
sois équilibré dans ce que tu fais. Mais sachez une chose, que nous ne sommes pas dans le naturel, nous ne pouvons pas l'être dans le spirituel. Nous allons prier ensemble.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.